voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, une maladie dont les premiers signes d'épidémie remontent à la fin des années 70 aux États-Unis, à New York et à San Francisco plus exactement. En 1981, l'existence d'un problème sanitaire est avérée, et c'est en 1983 que l'équipe du professeur Jean-Claude Sherman de l'Institut Pasteur, sous la direction de Luc Montagnier, découvre et isole le VIH. Luc Montagnier, qui reçut le prix Nobel de médecine en octobre 2008 pour ses recherches dans ce domaine et qui appartient à l'Académie des sciences. La journée du livre 2008 de l'Académie nationale de médecine fut placée sous le thème des maladies infectieuses. L'occasion de revenir sur l'apparition du sida dans les années 80 à travers deux témoignages, celui d'Hervé Guibert, écrivain, patient, qui laissa deux ouvrages en héritage, et celui du médecin Marc Gentilini, témoin puissant de ce qui fut une véritable hécatombe. Séropositif, décédé en 1991, Hervé Guibert laisse derrière lui le rare témoignage des détails de la vie d'un malade du sida dans les années 80 avec « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » et le protocole compassionnel. Nous vous proposons d'écouter la lecture d'extraits du premier livre par le comédien Charles Gonzalez. C'est Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, qui lui donne la réplique. Et écoutez également en deuxième partie le témoignage de Marc Gentilini, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Il évoque ces années où il devait convaincre infirmières et médecins de traiter ses patients en détresse.
Ce jour où j'entreprends ce livre, le 26 décembre 1988 à Rome, où je suis venu seul, envers et contre tous, fuyant cette poignée d'amis qui ont tenté de me retenir, s'inquiétant de ma santé morale, en ce jour férié où tout est fermé et où chaque passant est un étranger, à Rome, où je m'aperçois définitivement que je n'aime pas les hommes, où prêt à tout pour les fuir comme la peste, je ne sais donc pas avec qui ni où aller manger, plusieurs mois après ces 3 mois au cours desquels, en toute conscience, j'ai été assuré de ma condamnation, puis de ces autres mois qui ont suivi, où j'ai pu, par ce hasard extraordinaire, m'en croire délivré entre le doute et la lucidité, au bout du découragement tout autant que de l'espoir. Je ne sais pas non plus à quoi m'en tenir sur rien de ces questions cruciales, sur cette alternative de la condamnation et de sa rémission. Je ne sais si ce salut est un leurre qu'on a tendu devant moi comme une embuscade pour m'apaiser, ou s'il est pour de bon une science-fiction dont je serai un des héros. Je ne sais s'il est ridiculement humain de croire à cette grâce et à ce miracle. J'entrevois l'architecture de ce nouveau livre que j'ai retenu en moi toutes ces dernières semaines, mais j'en ignore le déroulement de bout en bout. Je peux en imaginer plusieurs fins qui sont toutes pour l'instant du ressort de la prémonition ou du vœu. Mais l'ensemble de sa vérité m'est encore caché. En m'endormant, je repense à ce que j'ai écrit pendant la journée. Certaines phrases reviennent et m'apparaissent incomplètes. Une description pourrait être encore plus vraie, plus précise, plus économe. Il y manque tel mot, j'hésite à me relever pour l'ajouter. J'ai quand même du mal à descendre du lit, à chercher dans le noir à tâtons la lampe de poche à travers le moustiquaire, ramper sur le côté au bord du matelas, comme me l'a enseigné le masseur, et laisser tomber doucement mes jambes, jusqu'à ce que mes pieds rencontrent la pierre nue. Allumer une bougie, chercher la bonne page dans le manuscrit, perfectionner par un ajout, une bifurque, la phrase en question. Sinon, retrouverai-je demain le mot qui manquait ? Non.
Le docteur Chandy nia ce que m'avait dit Stéphane et qui m'inquiétait tellement, qui me poussait presque à prendre ma décision, fût-elle anticipée, que le suicide était un réflexe de bonne santé. J'appréhendais le moment où la maladie m'ôterait la liberté du suicide.
Pas plus tard que le dernier jour où vous êtes venu me voir dans mon cabinet, j'en ai eu la preuve peu après que vous en êtes sorti. J'ai appris que l'un de mes patients, qui était traité depuis un an à la ZT, venait de mettre fin à ses jours. C'est son ami qui m'a appelé pour me prévenir.
Je demandais comment il avait fait. Pendaison.
Mais j'ai aussi des patients traités de l'AZT, continua le docteur Chandy, qui sont en pleine forme physique et morale. Pour l'un d'eux, âgé d'une cinquantaine d'années, tout va, on ne peut mieux, sinon qu'il n'a plus d'érection et qu'on mette cela sur le compte du médicament, ce qui m'étonnerait, ou d'un trouble psychologique lié à sa maladie, ce pourquoi je pencherai plutôt. Ce petit monsieur très vif refuse de s'en faire une raison. Il dit qu'il vient de rencontrer un nouvel ami, qu'il souhaite honorer. Et il se fait faire toutes les semaines, en plus de ses prises de sang, de contrôle, des piqûres dans la verge pour la redurcir. Ensuite, le docteur Chandy me raconta l'histoire d'un garçon épileptique et séropositif qui, lors d'une crise, avait mordu son frère qui tentait de glisser un morceau de bois entre ses dents pour l'empêcher d'avaler sa langue. On avait fait des recherches dans le sang et le sérum du frère pour savoir s'il avait été contaminé par la morsure. Et les médecins, si tel était le cas, envisageaient de lui prescrire de l'AZT à titre préventif. Quand je suis rentré en catastrophe du Mexique en octobre 1983, après avoir supplié le gérant de l'agence Air France de Mexico qui me reçut les pieds sur son bureau, regardant tomber du plafond dans une gamelle le goutte à goutte d'un déluge qui faisait rage à l'extérieur, dégoulinant moi-même et invoquant la pitié humaine de me rapatrier d'urgence en France en écourtant ce maudit billet tarif vacances à date fixe et minimum de 13 jours, alors que j'avais eu de violentes fièvres jusque dans l'avion qui me rapprochait secourablement de mon pays natal. Parmi des touristes déchaînés, affublés de sombreros qui engloutissaient en piaillant leur dernière rasade de tequila, j'appelais Jules de l'aéroport et lui appris qu'il avait passé tout ce temps où j'étais resté au Mexique, hospitalisé, accablé lui-même par de fortes fièvres, le corps couvert de ganglions. Et l'on avait cessé de faire sur lui, à l'hôpital de la cité universitaire, des examens qui n'avaient rien donné jusqu'à ce que l'on le renvoie chez lui. En regardant le paysage grisâtre de la banlieue parisienne défiler derrière la vitre du taxi que je considérais comme une ambulance, et parce que Jules venait de me décrire des symptômes qu'on commençait d'associer à la fameuse maladie, je me dis que nous avions tous les deux le sida. Cela modifiait tout en un instant, tout basculait, et le paysage avec, autour de cette certitude, le sida. Et cela, à la fois, me paralysait et me donnait des ailes, réduisait mes forces tout en les décuplant. J'avais peur, et j'étais grisé, calme en même temps qu'affolé. J'avais peut-être enfin atteint mon but.
Peu après mon retour du Mexique, un abcès monstrueux s'ouvrit au fond de ma gorge, m'empêchant de déglutir et bientôt d'avaler aucune nourriture. J'avais quitté le docteur Lévy, à qui je reprochais de ne pas avoir soigné mon hépatite et de prendre à la légère chacun de mes maux, spécialement ce point tenace à droite qui me faisait redouter un cancer du foie. Le docteur Lévy mourut bientôt d'un cancer des poumons. Je l'avais remplacé au centre d'exploration fonctionnelle que m'avait recommandé Eugénie par un autre généraliste, le docteur Naucourt, frère d'un collègue au journal. Ne lui laissant aucun répit, le consultant au moins chaque mois à propos de ce point à droite, je l'avais harcelé jusqu'à ce qu'il me dégrille des ordonnances pour tous les examens possibles et inimaginables, bien entendu le bilan sanguin par lequel on vérifiait le taux de mes transaminases, mais aussi une échographie au cours de laquelle, guettant sur l'écran en même temps que lui, tandis qu'il palpait mon abdomen graissé au bout de son stylet, les nuées de mes viscères, j'invectivais le praticien, dont l'œil me semblait trop froid, trop égal durant son inspection pour ne pas cacher quelques dissimulations. J'accusais son œil de mentir jusqu'à l'urographie, qui fut une épreuve terrible, humiliante. Caché nu plus d'une heure sur une table de métal glacé, sous une verrière où pouvaient me voir des ouvriers qui travaillaient sur le toit, impuissant à appeler quiconque car on m'avait oublié, une aiguille épaisse plantée dans la veine du bras, diffusant dans mon sang un liquide violacé qui le chauffait à mort.
Consultant mon agenda 1987, c'est au 21 décembre que je daterai la découverte sous ma langue dans le miroir de la salle de bain, là où mécaniquement j'avais pris l'habitude de l'inspecter en calquant mon regard sur celui du docteur Chandy lors de mes visites, sans connaître la teneur ni l'apparence de ce qu'il y recherchait, mais persuadé par cet examen répété qu'il guettait l'apparition prévisible de cette chose inconnue pour moi, de petits filaments blanchâtres, papillomes sans épaisseur, striés comme des alluvions sur le tégument de la langue. Mon regard s'effondra à la seconde, de même que s'effondra pour un 125e de seconde, transpercé et flashé par le mien, comme un coupable traqué par un détective, le regard du docteur Chandy, lorsque je lui ai montré ma langue, dès le lendemain, à sa consultation du mardi matin. Devant le signe catastrophique, le docteur Chandy est trop jeune pour savoir mentir, comme ces vieux renards de docteur Lévy, Nocourt ou Aron. Son regard n'est pas exercé à s'opacifier au moment venu, à ne scier en rien. Il conserve vis-à-vis de la vérité une transparence d'un 125e de seconde, comme le diaphragme photographique s'entrouvre pour absorber la lumière, avant de se refermer pour maturer sa conserve. Je devais déjeuner avec Eugénie ce jour-là. Je lui mentis par omission, soudain absent, de toute présence et de toute amitié, entièrement requis par mon souci. J'avais passé la veille la soirée avec Grégoire, et avant la confirmation du docteur Chandy, c'était à moi-même que j'avais menti, attendant encore un peu pour être pris d'une répulsion formidable à l'égard du seul organe sensuel auquel Grégoire permettait parfois une communication érotique. Et à Jules, absent de Paris, je mentis de même, dans un tout premier temps, par ce réflexe de l'omission. Le docteur Chandier ne proférait pas un verdict, d'autant plus qu'il était prévenu de la réalité de ma maladie par ce zona qui s'était déclenché 8 mois plus tôt alors que je n'étais pas encore son patient. Simplement, il devait m'entraîner avec la plus grande douceur possible, tout en me laissant libre, comme l'avait dit Musil, de savoir où de me leurrer vers un nouveau palier de la conscience de ma maladie. À toute petite touche, très subtile, par sonde du regard qui devait tout à coup freiner ou reculer devant l'essaimement de l'autre, il m'interrogeait sur ces degrés de conscience et d'inconscience, faisant varier de quelques millièmes de millimètre l'oscillomètre de mon angoisse. Il disait « Non, 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 je n'ai pas dit que c'était un signe décisif, mais je vous mentirais en vous cachant que c'est un signe statistique. » Si, un quart d'heure plus tard, je lui demandais avec panique, « Alors, c'est un signe tout à fait décisif ?» Il répondait « Non, je ne dirais pas cela, mais c'est toutefois un signe assez déterminé. » Ce n'est pour l'instant qu'une fatigue inhumaine, une fatigue de cheval ou de singe greffé dans le corps d'un homme qui lui donne envie à tout instant de fermer les paupières et de se retirer, de tout et même de l'amitié, sauf de son sommeil. Cette fatigue monstrueuse a localisé sa source dans les minuscules réservoirs lymphatiques qui se distribuent tout autour du cerveau pour le protéger, comme une petite ceinture de la lymphe dans le cou, sous les maxillaires, derrière les tympans, assiégée par la présence du virus qui se crève pour lui faire barrage, diffusant par les globes oculaires l'épuisement de ses systèmes de défense. Le livre lutte avec la fatigue qui se crée de la lutte du corps contre les assauts du virus. Je n'ai que 4 heures de validité par jour. Une fois que j'ai remonté les stores immenses de la verrière, qui sont le potentiomètre de mon souffle déclinant, pour retrouver la lumière du jour et me remettre au travail. Hier, dès 2 heures de l'après-midi, je n'en pouvais plus. J'étais à bout de force, terrassé par les puissances de ce virus dont les effets s'apparentent, dans un premier temps, à ceux de la maladie du sommeil ou à ceux de cette mononucléose dite maladie du baiser. Mais je ne voulais pas lâcher prise et j'ai réattaqué mon travail. Ce livre qui raconte ma fatigue me l'a fait oublier. Et en même temps, chaque phrase arrachée à mon cerveau, menacée par l'intrusion du virus, dès que la petite ceinture lymphatique aura cédé, ne me donne que davantage envie de fermer les paupières.
Le diagnostic biologique. En 1989, je dois appeler le docteur Chandy pour qu'il téléphone les résultats des analyses auxquelles j'ai dû me soumettre le jour d'avant pour la première fois à l'hôpital Claude-Bernard, entrant par là dans une nouvelle phase de la maladie, examens qui ont été atroces car j'ai dû m'y rendre à jeun et de bonne heure, ne dormant pratiquement pas de la nuit par peur de manquer ce rendez-vous pris un mois plus tôt pour moi par le docteur Chandy, qui avait épelé au téléphone mon nom, mon adresse et ma date de naissance, me propulsant par là publiquement dans une nouvelle phase avouée de la maladie, sinon pour rêver cette nuit qui précéda ces atroces analyses où l'on me ponctionna une quantité abominable de sang que j'avais été empêché pour diverses raisons de me rendre à ce rendez-vous décisif pour ma survie, devant de surcroît traverser de bout en bout Paris, paralysé par la grève semi-générale, écrivant tout cela en réalité le 3 janvier au soir, par peur de m'écrouler dans la nuit, fonçant férocement jusqu'à mon but et jusqu'à son inachèvement, me ressouvenant avec terreur de cette matinée où j'ai dû sortir à jeun dans les rues glacées, où régnait à cause de la grève un affolement anormal pour me faire soutirer une quantité astronomique de sang, voler mon sang dans cet institut de santé publique, aux fins de je ne sais quelle expérience, de lui ôter en même temps de ses dernières forces valides sous le prétexte de contrôler le nombre de T4 que le virus avait massacré en un mois dans mon sang, de capturer une dose supplémentaire de mes réserves finales pour les envoyer aux chercheurs, les transformer en matière désactivée d'un vaccin qui sauvera les autres après ma mort, d'une gamma-globuline ou pour en infecter un singe de laboratoire. Mais auparavant, j'avais dû m'écrabouiller dans la masse pente et résignée qui bondait un compartiment de métro déréglé par la grève, en ressortir suffoqué et remonter dans la rue pour attendre devant la cabine téléphonique que la jeune fille étrangère, avec ses nombreux bagages, ait compris d'après mes gestes derrière la vitre dans quel sens on devait glisser la carte de téléphone, qu'il fallait ensuite rabattre le volet sur elle. Elle me laissa gentiment la place et attendit à son tour dans le froid que j'ai fini avec la boucle désespérante du 10 des textiles, en même temps qu'un ouvrier de la ville de Paris, ayant arrêté sa fourgonnette devant la cabine, l'avait prise d'assaut avec un système d'aspersion qui avait tout obscurci et bleuté à l'intérieur, tandis que j'ai réécouté pour la 100e fois le 10 des taxis bleus, écœuré par le café noir non sucré que le docteur Chandy m'avait autorisé à ingérer à l'exclusion de toute autre chose, alors que l'infirmière, quand j'atteignais le seul îlot encore vivant à l'intérieur de l'hôpital Claude Bernard qu'on venait d'évacuer et que je traversais désaffecté dans la brume comme un hôpital fantôme du bout du monde, me souvenant de ma visite de Dachau, le dernier îlot animé qui était celui du sida, avec ses silhouettes blanches derrière les vitres des polis, me demanda en entassant les tubes vides dans la cuvette, un, puis deux, puis trois, puis un grand, puis deux petits, et enfin ça faisait une douzaine qui allaient tous se remplir dans un instant de mon sang chaud et noir, et qui se chevauchaient dans la cuvette en roulant sur eux-mêmes et en cherchant leur place comme ces voyageurs affolés dans les rames du métro désynchronisés par la grève, si j'avais pris un bon petit déjeuner, que j'aurais dû, contrairement à ce que m'avait assuré le docteur Chandy, puisque j'avais pris la peine de lui demander, que je devrais la prochaine fois, me dit l'infirmière, en me demandant quel bras je désirais qu'on saigne, comme si pour l'heure j'étais en mesure d'assumer une prochaine fois, horrifié dans un état d'horreur proche du fou rire, mais pour l'instant l'ouvrier de la ville de Paris avait raclé à l'extérieur toute la buée de la cabine téléphonique et attendait en croisant les bras que j'en ai fini avec le 10 des taxis bleus pour attaquer l'intérieur, prêt à repousser la jeune fille étrangère dont c'était le tour, mais de lassitude il disparut avec sa fourgonnette au moment même où la voix des taxis bleus me dit en raccrochant aussitôt qu'il n'y avait pas de voiture disponible et au bout de 10 minutes d'attente pour ce numéro de la rue Raymond Lassan que j'avais relevé à la hâte au moment où j'avais fini enfin la dernière ligne derrière la vitre de la cabine téléphonique où je laissais pénétrer la jeune fille étrangère, me réengouffrant dans le métro, cette fois prêt à tout, avec un écœurement, une faiblesse proche de la puissance, prêt au pire, avec même une certaine gaieté, à me faire casser la gueule gratuitement comme par hasard ce matin-là, ou jeté par un fou sous la rame où j'allais pour la seconde fois m'écraser, en retenant mon souffle et en levant la tête, respirant uniquement par le nez, terrorisé à l'idée qu'en plus de tout, je risquais d'attraper cette grippe chinoise qui avait déjà cloué au lit, écrivaient les journaux, 2,5 millions de Français.
Le vendredi 13, je me suis réveillé frais et dispo. Ma fièvre étant mystérieusement tombée sans les antibiotiques que je n'avais pas eu le temps d'acheter au cours de la nuit. Mon épuisement m'avait abandonné, c'était spectaculaire. Le jour et la nuit, tout comme le jour et la nuit entre écrire ou ne pas écrire. Les siestes devenaient inutiles. J'avais l'impression de récupérer chaque jour un petit morceau de geste que j'avais perdu en quelques semaines. Lever le bras pour allumer le plafonnier de la salle de bain, remonter dans l'autobus, même en m'agrippant aux deux barres. Avoir moins mal lors des coups de frein ou d'accélérateur. Mon sommeil redevenait voluptueux. Ce n'était plus un monde horrible. De se retourner dans son lit ou de bouger le bras pour tirer sur le drap.
Mon corps n'était plus un éléphant ligoté avec des trompes d'acier à la place des membres, d'une baleine échouée saignée à blanc. J'étais de nouveau vivant. J'écrivais de nouveau. Je bandais de nouveau. Bientôt peut-être je baiserais de nouveau. Jusqu'à tout à l'heure, c'est-à-dire pendant 4 jours, j'ai vécu des jours bénis. J'ai pensé que si je rechutais, je ne devais pas les oublier. Un dîner avec Jules sans cette fatigue monstrueuse, la soirée avec Zouk qui s'est allumée à certains heures du matin au bal des pompiers, il y a les choses qui ont un sens au passé et les choses qui ont un sens au présent, même si elles se coïncident à peu près dans le temps.
L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert, c'est le titre de l'ouvrage dont sont tirés les extraits lus par Charles Gonzalez et Jacques Louis Binet. C'est au tour de Marc Gentilini de livrer son expérience de médecin, chef de service à la Pitié-Salpêtrière dans les années 80, seul hôpital avec Claude Bernard à accueillir des patients séropositifs à Paris.
Je suis un des grands témoins, je mets grand entre guillemets, mais un des témoins en tout cas du sida depuis son début. Il y avait deux services à Paris qui s'en occupaient dès le départ, c'était l'hôpital Claude Bernard et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il se trouve que par le fruit du jeu des assistants, j'ai accueilli en 82... c'est-à-dire l'année qui a suivi la publication des premiers cas, un des collaborateurs qui était transfuge de Claude Bernard. Nous avons monté une unité consacrée à ces malades et le ganglion d'un des patients prélevé a été porté à l'Institut Pasteur de Paris au groupe de Luc Montagnier. Donc, nous avons été dès le début au cœur dramatique du problème. J'ai vu mourir dans mon service en 10 ans, les 10 premières années, de 80 à 91, 2000, plus de 2000 jeunes malades atteints de sida, la plupart homosexuels. Et si je n'aime pas reparler de cette période, c'est parce qu'elle était très lourde pour un service qui n'était pas prêt à cette émergence virale et parce que l'ambiance à l'époque était très lourde, très difficile. Il était courant de trouver dans les sous-sols de l'hôpital de la Pitié, si bien nommé, des slogans insultants à l'égard des malades, insultants à l'égard des soignants, insultant évidemment à l'égard des chefs de service qui pouvaient se mêler de traiter ces patients. Ça a été une période extrêmement douloureuse et c'est la période au cours de laquelle, avec Coulot à l'hôpital Claude Bernard, avec Modaille à l'hôpital Saint-Louis, nous avons décidé d'épauler le secrétaire de Foucault qui se proposait de créer une association qui pourrait aider à accepter ces patients. Nous avions été contraints en 1982-83 de faire des amphithéâtres à la Pitié-Salpêtrière pour rassembler les personnels soignants qui étaient apeurés par cette maladie. Il y avait des réticences parmi les soignants. Je parle des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, mais je parle aussi des médecins. Et j'ai été très choqué à l'époque de l'attitude d'un certain nombre de confrères. On ne peut pas dire ça dehors, ce ne serait pas très déontologique, mais on doit le dire ici, qui n'acceptaient pas de soigner ces patients. J'ai encore en mémoire des rejets de malades que nous avions placés dans certains services et qui, une fois la séropositivité découverte et le lien établi entre la complication pour laquelle on les hospitalisait et cette séropositivité, était rejetée. Donc, c'était une période très difficile. Et moi, je rends hommage à l'équipe qui a su rester soudée à l'époque, des infirmières, des aides-soignants et des médecins, pour prendre en charge ces patients qui étaient très attachants. Alors, Hervé Guibert, moi, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu, simplement, on me dit que c'était quelqu'un qui était un peu difficile, un peu très tourné vers lui-même, un peu... Enfin, peu importe, mais je le compare à tous ceux jeunes, pour la plupart, que j'ai eus en charge et que j'ai accompagnés, comme d'autres l'ont fait, jusqu'au bout, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de participation. C'était même presque, à la fin, mauvais, malsain d'aller jusqu'au terme, parce qu'on était pris par la vie écourtée de ces jeunes. Et les supplications de chacun, les uns étaient très, très nantis, très argentés, et ne comprenaient pas comment, ayant l'argent, la position l'argent qu'ils avaient, la position qu'ils occupaient, on ne pouvait pas trouver un médicament et leur donner satisfaction pour au moins les prolonger. L'idée de la mort, ils la refusaient. Ils n'étaient pas préparés à cela. Et rien dans leur vie ne les préparait à une fin aussi brève, proche et aussi tragique. Et ça a été, donc, je vous le dis, une période très douloureuse. Et beaucoup de morts, beaucoup de jeunes sont morts sans avoir le temps d'écrire et sans avoir le temps de faire rapporter leurs témoignages. Mais moi, je garde encore en mémoire ces témoignages. Et quelques-uns voulaient absolument me laisser un objet avant de partir en disant « Mais je sais que je n'ai pas le droit, je ne peux pas accepter, c'est pas nécessaire. » Mais je veux absolument que vous vous souveniez de moi. Alors acceptez ce présent pour qu'il y ait encore un témoignage de mon existence quelque part. Et ma dernière remarque, il y a quelques jours, me rendant aux Invalides pour une remise de décoration, étant arrivé un peu en avance, je gérais dans les jardins plus ou moins bien entretenu des Invalides, et j'ai été abordé par un grand type solide qui m'a dit « Vous êtes bien le professeur Gentilny ?» Je dis « Oui, que puis-je pour vous ?» Il m'a dit « Ben voilà, vous m'avez soigné il y a quelques années et vous voyez, je suis toujours vivant. » Et je raconte cet épisode parce que ça m'a beaucoup touché que beaucoup d'entre nous, nous sommes oubliés au bout de 4 ans, 5 ans. Nous sommes coupés du monde actif médical et il est normal qu'on nous oublie. Mais que des malades se souviennent de ce qu'on avait pu faire pour eux, traversent une rue ou un jardin pour venir vous saluer, c'est quand même formidable. Et le deuxième point positif de ce témoignage, c'est qu'il était encore là et tout a basculé en 96 avec l'arrivée des antirétroviraux. Des malades qui étaient condamnés à mort ont ressuscité littéralement. Il y a des résurrections. Et vous le savez maintenant, la durée de vie des séropositifs, s'il n'y a pas d'accident intercurrent en particulier, correspond à la longévité normale des sujets. C'est quand même un extraordinaire combat gagné par la médecine. Et toutes les critiques qu'on peut faire contre la façon de soigner, contre les médecins, contre les soignants, c'est rien par rapport aux qualités de la recherche et au travail qui a été conduit pendant ces années dans des périodes, dans des moments, dans des circonstances extrêmement difficiles. On n'a pas été aidé par beaucoup. Je dois rendre hommage à un homme politique qui m'a apporté son soutien et c'est pour ça que je lui suis fidèle, en créant à l'époque, brusquement, ce qui ne m'a pas fait que des amis, 20 postes de soignants et d'infirmières et 20 lits pour hospitaliser ces patients.
C'était Marc Gentilny, membre de l'Académie nationale de médecine, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, ancien président de la Croix-Rouge. Il intervenait dans le cadre de la journée du livre 2008 à l'Académie nationale de médecine après la lecture d'extraits de l'ouvrage d'Hervé Guibert, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », témoignage d'un homme jeune, séropositif dans les années 80. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les interventions consacrées à la grippe espagnole et à la tuberculose, deux autres sujets développés au cours de cette journée du livre, placés sous le thème des maladies infectieuses. À bientôt pour de prochaines émissions.